Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, 3 novembre, nous fêtons les Hubert. Même si le prénom est connu, aujourd'hui il n'est plus tellement donné aux bébés. La meilleure année, 1956, avec 1418 naissances de Hubert. Mais en 2018, 11 garçons seulement ont reçu ce prénom. Quant aux communes portant ce nom, il n'en existe pas dans notre région, alors qu'il y en a 3 dans l'Est, 1 en Moselle et 2 en Meuse. Qui donc est ce Saint Hubert ? Hubert est né vers le milieu du 7e siècle. Il était fils d'un duc d'Aquitaine et sa famille était issue du sang des rois mérovingiens. On le dit apparenté à Charles Martel. On le trouve à la cour de Pépin de Harstal, maire du pays d'Austrasie, Lorraine, et de Neustrie, c'est-à-dire la Loire, la Bretagne, la Manche et la Meuse. Il épouse Floribane, fille du roi Dagobert. Les chroniqueurs nous disent qu'il était connu par les joies folles de la vie mondaine. On dit que le seigneur Hubert était si passionné de chasse qu'il en oubliait ses devoirs. La légende rapporte qu'il n'avait pu résister à sa passion un vendredi saint et, n'ayant trouvé personne pour l'accompagner, était parti chasser sans aucune compagnie. À cette occasion, il se trouva face à un cerf extraordinaire. En effet, celui-ci était blanc et portait une croix lumineuse au milieu de ses bois. Hubert se mit à pourchasser le cerf, mais celui-ci parvenait toujours à le distancer sans pour autant se fatiguer. Ce n'est qu'au bout d'un long moment que l'animal s'arrêta et d'une voix tonna dans le ciel en s'adressant à Hubert en ces termes. « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? » Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et humblement, il interrogea la vision. « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» La voix reprit. « Va donc auprès de Lambert, mon évêque à Maastricht. Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés. » ainsi qu'il te sera enseigné. Voilà ce à quoi tu dois te résoudre pour n'être point damné dans l'éternité. Je te fais confiance afin que mon Église, en ces régions sauvages, soit pour toi grandement fortifiée. » Et Hubert de répondre avec force et enthousiasme. « Merci, ô Seigneur, vous avez ma promesse. Je ferai pénitence, puisque vous le voulez. » Je saurai en toute chose me montrer digne de vous. » Dès lors, sur les conseils de Saint Lambert, évêque de Maastricht, il s'engagea dans une vie monastique exemplaire. Il fut élu évêque de Maastricht, Liège et Tongres en remplacement de Saint Lambert. Il était le père des pauvres et des orphelins, le soutien des veuves, l'appui des opprimés. Son zèle pour instruire son peuple était infatigable. Lorsque vers l'an 720, Saint Hubert fit transporter le corps de Saint Lambert de la ville de Maastricht au village de Liège, où ce saint avait été martyrisé, il y transféra également, avec l'approbation du pape, le siège de l'évêché et jeta les fondements de la future ville de Liège. Depuis ce temps, cette ville a toujours honoré Saint Hubert comme son premier évêque et comme son principal patron. L'épisode du cerf le désigna tout naturellement comme le patron de tous les chasseurs, mais aussi des forestiers, de l'environnement, mais aussi des confréries des fourreurs, bouchers, ouvriers de la métallurgie, armuriers, opticiens, mathématiciens et fabricants d'instruments mathématiques. Hubert mourut de gangrène le 30 mai 727 dans sa propriété à Fouron-le-Comte. Il fut enseveli dans l'abbatiale Saint-Pierre de Liège qu'il avait fondée et qui deviendra la première collégiale liégeoise après le départ des moines bénédictins. Le 3 novembre 743, Floribert, qui lui succède comme évêque de Liège, porta ses reliques sur les autels, manifestant ainsi sa canonisation par l'Église. C'est à l'anniversaire de cette cérémonie que fut fixée sa fête le 3 novembre chaque année. Le jour de la Saint-Hubert, le sel, le pain et l'eau sont bénis pour protéger contre les morsures et les chiens, chevaux et oiseaux de proie des chasseurs se voient imposer les clés de Saint-Hubert pour être protégés contre la rage. À Chartres, nous avons le privilège d'avoir un groupe de sonneurs, le Rallye Saint-Hubert. Cette formation participe tous les ans au mois de novembre à une messe du samedi soir et anime cette messe avec brio. Nombreux sont les fidèles présents ce jour-là. Le Rallye Saint-Hubert a été plusieurs fois l'invité des estivales à Chartres et l'assistance était très nombreuse pour venir les écouter. Et bien sûr, ce groupe se produit dans les châteaux ou dans des fêtes différentes. Qui sont ces hommes qui s'époumonnent à faire sortir des sons harmonieux pour le plus grand plaisir des auditeurs? Issus de tous les milieux, de professions différentes et de tous âges, ils sont réunis en association créée en 1928 au cœur de la ville de Chartres, rue de la Tonnellerie. Son fondateur, Hubert Broust, passionné de trompe, réunit quelques amis sonneurs et crée le groupe. Gaston Chalmel, sonneur virtuose, compositeur de nombreuses fanfares et d'autres messes, lui succédera quelques années plus tard. Puis, ce sera la dynastie des Joannes, d'abord Paul, qui sera sacré champion international de basse. Après 33 ans à la tête du groupe, Paul Joannes laisse à son fils aîné Michel la direction musicale du Rallye Saint-Hubert. Depuis 2008, c'est François Joannes, le fils de Michel, qui perpétue la dynastie en assurant la direction et la cohésion du groupe. Le Rallye Saint-Hubert de Chartres, composé d'une douzaine de sonneurs, répète chaque mercredi dans les locaux mis gracieusement à sa disposition par la Fédération des chasseurs de Raie-Loire, au château de Chenonville, à la Bourdinière Saint-Loup. Avec la Saint-Hubert, nous baignons dans le domaine de la musique. Alors, je voudrais élargir le thème au chant liturgique. Chanter, c'est prier de foi. Cette phrase est attribuée à saint Augustin, né en 354 de notre ère. Ces mots d'un père de l'Église montrent que le chant fait partie de la prière chrétienne depuis les commencements. Saint Augustin disait aussi « Si tu veux voir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons ». Nous ne chantons plus aujourd'hui la plupart des cantiques de notre enfance, des cantiques d'avant-concile, mais d'autres mélodies ont été composées. D'autres paroles ont été écrites pour nous permettre de prier et de louer Dieu. Quand nous participons à la messe, quand nous suivons une procession mariale au 15 août à Chartres, par exemple, ou un pèlerinage à Lourdes, lorsque nous chantons ensemble un credo, un Ave Maria ou un autre cantique, nous nous sentons proches les uns les autres. Nous savons que nous vivons une même foi. Et le rôle d'une chorale ? Certains regrettent que dans certaines églises, les fidèles assistent à une belle prestation sans pouvoir chanter. Ailleurs, des paroissiens se plaignent que la messe dans l'église paroissiale de leur village n'est pas très animée et que personne ne chante. En d'autres lieux, on regrette de ne pouvoir chanter car un répertoire nouveau n'est pas encore accessible au plus grand nombre. Il est bien difficile de pouvoir contenter tout le monde. Et la participation au chant dépend bien sûr de la communauté. Des efforts sont faits partout pour donner aux fidèles des livres, des feuilles de chant ou pour projeter les paroles des cantiques sur un écran. C'est aussi à chacun de nous de ne pas hésiter à fredonner avec une chorale ou à chanter timidement un chant nouveau. Et après quelques semaines, nous l'aurons en tête. Il est bien agréable, lors d'une messe de minuit, d'entendre les fidèles chanter à plein poumon « Il est né le divin enfant » ou « Les anges dans nos campagnes ». Bien sûr, il faut renouveler le répertoire, Mais il est bon aussi de garder quelques airs connus pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer par le chant. Donc, de prier deux fois, comme le dit si bien saint Augustin. Au revoir et à demain.